15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h avec à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors on passe au programme du jour. Aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la sécurité alimentaire. Mais chez vous, êtes-vous sûr de prendre toutes les précautions quand vous cuisinez pour éventuellement éviter les contaminations dans votre cuisine familiale? Connaissez-vous toutes les règles de conservation des aliments pour éviter les incidents? On fera le point avec notre invité, c'est Laurent Lalou. Il est directeur du laboratoire de sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du cancer colorectal et surtout de l'importance du dépistage organisé contre cette maladie. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler aujourd'hui d'une infection, celle du tétanos. Comment la contracte-t-on? Y a-t-il des personnes plus à risque? Et surtout, comment ça se soigne? On vous expliquera tout ça. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces habitudes sexuelles qui rythment certains. Certains sont plus du matin, d'autres plus du soir. Alors que faire quand on n'est pas tout à fait au diapason dans son couple? Catherine nous donnera tous ses bons conseils.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Adam qui nous a appelé de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai un souci parce que je sens fort des pieds, malgré le fait que je les lave tous les jours sous la douche. Et voilà, je voulais savoir à quoi ça pouvait être dû et si vous auriez des conseils à me donner pour plus sentir mauvais. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors moi, je suis très contente quand on a ce genre de questions parce que c'est un peu intime. Parfois, c'est difficile à aborder par pudeur. Et là, on est dans son rendez-vous. Et je vous le répète à chaque fois, il n'y a aucune question tabou. Et pour y vous répondre, justement, sans aucun tabou, Jimmy, vous qui connaissez bien le problème, les mauvaises odeurs au niveau des pieds, ça vient de quoi?
Vous commencez très bien, Mélanie. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lié à un problème de transpiration excessive. La transpiration, c'est un mécanisme naturel, physiologique, qui sert notamment à réguler la température corporelle. Mmh. Donc, il est normal de transpirer. Et au niveau des pieds, la transpiration, elle est un peu particulière, puisqu'on a des glandes sudoripares qui recouvrent la voûte plantaire et on en dénombre environ 600 glandes par centimètre carré contre 200 en moyenne, ce qui veut donc dire qu'on transpire un peu plus des pieds qu'ailleurs. Ça peut représenter une demi-tasse de sueur par jour. Et puis Mélanie, vous le savez, quand chez même. Certains, ça peut être beaucoup plus.
Oui,
et là, ça peut poser des problèmes.
Bien sûr. Alors, on transpire beaucoup au niveau des pieds, ça on a compris, pour des raisons physiologiques. Ça, c'est pour tout le monde, mais pourtant, tout le monde, on a tous le même nombre de glandes, mais on ne pue pas tous des pieds.
Exactement, parce que la sueur, à l'état normal, ne sent pas mauvais. Lorsque vous faites du sport, on ne sent pas mauvais. La sueur, c'est simplement de l'eau et du sel. Sauf qu'au niveau des pieds, mais aussi sous les aisselles, ça macère, c'est dans un environnement fermé, notamment avec les chaussettes et les chaussures. Et du coup, les bactéries ont tendance à proliférer plus facilement et donc ça sent plus mauvais. Le problème de la transpiration peut être excessive au point qu'il peut avoir une gêne réelle sociale. On appelle ça l'hyperhidrose. On avait consacré une émission à ça.
Tout à fait.
Et ce qu'on sait, c'est que la quantité et la qualité des bactéries peut varier d'une personne à une autre, ce qui veut donc dire que certaines personnes peuvent sentir des pieds et d'autres non. Ça dépend de ce qu'on appelle notre microbiote.
D'accord.
Il est présent un peu partout.
Mais alors, je pensais que c'est si on puait des pieds, puisque moi, ça m'est totalement inconnu, vous avez bien compris. C'est parce qu'on avait quand même des mycoses ou des champignons au niveau des pieds. Non, pas forcément.
Pas forcément.
Ça peut être juste
ce
problème de bactéries.
Exactement. Vous avez des mycoses, mais vous ne sentez pas mauvais des pieds.
Voilà.
Mais le fait d'avoir des mycoses, on sait quand même, on sait que d'avoir des mycoses ou une infection bactérienne, ça peut aggraver un peu le cas. Donc là, c'est un peu le cocktail explosif.
Bon, rapidement, Jimmy, donnez-nous quelques conseils. Vous en êtes sorti comment de ce problème?
C'était long, ce fut compliqué, mais on a plein de solutions. Alors évidemment, il y a certains traitements locaux à base d'aluminium qui peuvent absorber l'eau. Dans certains cas, on peut faire de la toxine botulique, on en avait parlé pendant
l'émission.
Ah oui,
les injections, bien sûr.
Ça marche, c'est très efficace. C'est pas remboursé, mais c'est très efficace. Il y a ce qu'on appelle la ionophérèse, qui consiste à mettre les pieds et les mains dans un courant électrique et qui, par immersion, va dépolariser les cellules des glandes sudoripares. Donc, il existe quelques moyens simples pour moins sentir mauvais des pieds.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Anaïs. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie. Je regarde pas mal de séries médicales, comme Dr House ou Grey's Anatomy, et j'entends souvent parler d'une chose, c'est le lupus. Sauf qu'on nous explique jamais ce que c'est, donc c'est quoi du coup?
Alors Jimmy, on va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans le détail, parce que le lupus, c'est une maladie extrêmement complexe. On fera peut-être une émission bientôt sur ça, évidemment, mais dans les grandes lignes, c'est quoi un lupus?
Lupus, c'est une maladie auto-immune. Lupus, ça vient du latin qui veut dire loup. On utilisait déjà au Moyen-Âge, et c'est dans les années 1850 qu'on s'est intéressé au lupus, qu'on a dit que c'était le carnaval, le masque du carnaval, d'où le fait d'avoir cette éruption particulière. Donc c'est une maladie auto-immune très fréquente qui va atteindre plusieurs organes, souvent la peau, les reins, les articulations. Ça touche plutôt les femmes jeunes et c'est responsable de certaines complications et d'un traitement qui doit se prendre souvent sur le très long terme.
Ça touche plus les femmes, vraiment beaucoup plus, je crois.
Oui,
même, hein.
Le sex ratio, c'est très important. C'est 90% des cas, c'est des femmes. Et dans 90% des cas, ça survient au moment de la puberté ou de la grossesse, voire de la ménopause. Donc c'est la femme plutôt jeune qui a entre 15 et 45 ans qui développe cette pathologie.
Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque de développer un lupus rapidement ?
On les connaît très peu. Il y a un terrain immunitaire évident avec un terrain génétique. Donc si vous avez des lupus dans votre famille, vous avez plus de risques. Mais si aussi vous avez d'autres maladies auto-immunes, des thyroïdites, le syndrome de Gougeot-Sjögren, et bien à ce moment-là, vous avez plus de risques. On sait que les ultraviolets peuvent déclencher la maladie. Certains médicaments peuvent aussi. Donc c'est une maladie qu'on dit multifactorielle, mais les mécanismes encore pas très clairs.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage. Pour en dire plus sur cette maladie complexe, on essaiera bien sûr de faire une émission. En attendant, si vous aussi, comme Anaïs, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'importance du dépistage du cancer colorectal. Et puis, on accueillera aussi notre invité à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Nous recevons aujourd'hui Laurent Laloux. Il est directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, Laurent Laloux, directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler d'un test de dépistage simple, rapide et performant du cancer colorectal. D'ailleurs, le mois de mars, ce sera le mois de sensibilisation autour de ce cancer. Mais tout d'abord, rappelez-nous pourquoi il est primordial de le dépister très tôt, justement.
Alors, le cancer colorectal, c'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième cancer qui tue le plus, avec 17 000 décès par an. On a un test de dépistage qui est disponible, qui permet de réduire le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès chaque année. Le problème, c'est que la participation à ce dépistage est plutôt faible. On n'est qu'à 32% en France.
Oui, c'est pas beaucoup.
À l'étranger, on est mieux. Les Pays-Bas, ils ont un taux assez record de 70%.
Wow.
Et au Portugal, ils sont à 62%. D'autant plus que plus on participe au dépistage, plus on sauve des vies. Si on était ne serait-ce qu'à ces 65%, on pourrait dépister 5700 cancers en plus de façon précoce. Et on pourrait sauver 6600 vies supplémentaires chaque année. Donc, il y a un moyen de dépistage qui peut sauver des vies.
Effectivement, des arguments qu'on comprend bien tout de suite. Comment il marche ? Comment il fonctionne, ce test ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer colorectal, il se développe sur les parois du côlon et du rectum à partir d'une petite tumeur bénigne qu'on appelle le polype. Ce polype, il est non cancéreux et il peut apparaître sans symptômes. Et il peut rester et se transformer en cancer après un processus qui peut durer une dizaine d'années. L'idée de ce dépistage, c'est de permettre de dépister le cancer à un stade précoce pour le traiter le plus rapidement possible.
Quand il est
avec
tout petit encore.
Quand il est tout petit.
Ouais. Comme pour le cancer du sein,
exactement.
C'est ça, petite tumeur.
Et on peut l'enlever très facilement. Dans ce cas-là, le cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et puis évidemment, plus on attend, plus le traitement sera lourd et contraignant avec des résultats incertains. Le test de dépistage permet donc d'enlever ce polype au décours d'une coloscopie avant qu'il ne devienne un réel cancer.
Et comment ce test se pratique concrètement ? Parce que bon, la mammographie, ça paraît simple à tout le monde. Celui-là, on sait qu'il y a une histoire de caca autour. Hein, donc
exactement.
Les gens sont toujours un peu dégoûtés, mais non, il n'y a rien de dégoûtant.
C'est vrai qu'il n'y a rien de dégoûtant. Alors c'est un test qui est vraiment très simple. Il se fait à la maison, donc on n'est pas obligé d'être au laboratoire, donc c'est plutôt confortable, on est chez soi. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, on n'avance aucun frais, il est remis par le médecin traitant. On fait un petit prélèvement de sel avec un petit bâtonnet, une seule fois, avant il fallait le faire plusieurs fois, qu'on met dans un petit tube hermétique pour qu'il soit bien conservé. On a une petite fiche d'identification, on met le kit avec la fiche dans une enveloppe T, donc on n'a pas à la franchir, et puis on l'envoie tranquillement au laboratoire, et puis le test est analysé.
Et ce test, donc, il n'est pas recommandé aujourd'hui pour toute la population. Je crois que le dépistage organisé, comme pour la mammographie, c'est des gens bien ciblés, hein, c'est qui ?
Exactement, c'est les personnes qui ont entre 50 et 74 ans, elles sont 17 millions, et qui n'ont pas de facteur de risque de cancer colorectal et pas de symptômes. Donc, pas d'histoire familiale importante ou pas de saignement dans les selles, de signes qui nous feraient aller à la coloscopie d'emblée.
Donc, c'est tout le monde sans symptômes particuliers à partir de 50 ans.
50 ans.
Ouais.
Et on peut faire ça tous les deux ans. Il faut le faire tous les deux ans. C'est un petit moyen simple, non contraignant, non invasif et qui peut sauver des vies.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Laurent Laloux. Il est directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. Et avec lui, évidemment, on va parler de toutes les règles à mettre en place chez vous, dans votre cuisine, par exemple, pour éviter les intoxications alimentaires.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Laurent Lallou.
Bonjour.
Merci d'être sur notre plateau. Alors, le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes il y a quelques jours. Et vous, à l'ANSES, chaque année, ce salon, c'est une occasion de rappeler aux Français les quelques bonnes règles d'hygiène pour éviter les accidents chez soi, avec les aliments que l'on consomme. D'abord, on va peut-être donner quelques chiffres pour que nos auditeurs comprennent bien. Les intoxications alimentaires, chaque année en France, ça représente quoi ?
Alors, les intoxications alimentaires, on appelle ça plutôt les toxi-infections alimentaires collectives, parce qu'elles sont déclarées à partir du moment où il y a deux personnes qui sont malades à partir d'une même prise de repas. Et on estime que les personnes touchées par ces toxi-infections alimentaires collectives sont autour de 10 à 13 000 personnes déclarées par an.
Chaque année.
Alors ça, ce sont les déclarations.
Oui, parce que tout le monde ne déclare pas d'ailleurs. On peut être malade chez soi parce qu'on a mangé des œufs un peu périmés ou je ne sais quoi, et on ne va pas forcément voir le docteur.
Tout à fait. Là, c'est vraiment les déclarations par les professionnels de santé, c'est-à-dire que vous allez voir un médecin et ce médecin va faire la déclaration aux autorités sanitaires pour ces toxi-infections alimentaires collectives.
Jimmy ?
Est-ce qu'on peut dire que les Français connaissent les bonnes règles de conservation des aliments ou finalement on n'est pas si bon que ça ?
Alors, c'est des messages qu'on fait passer régulièrement chaque année. Je pense qu'il n'est jamais inutile de rappeler ces messages de bonnes pratiques d'hygiène dans les cuisines. On constate que par rapport à ces déclarations, la part des toxi-infections alimentaires en foyer familial est en diminution. Ce qui peut supposer que les messages que l'on fait passer portent leurs fruits et qu'on réduit un peu ces mauvaises pratiques d'hygiène en cuisine.
Et si on fait cette émission aujourd'hui, c'est pour ça aussi, pour passer les bons messages. Vous avez dit que c'était largement sous-estimé, probablement, puisque vous avez dit 17 000 à peu près intoxications recensées. Ça veut dire qu'on en aurait combien en réalité ? On a estimé déjà ?
Là, je vous parlais de, on va dire, de 10 000 à 13 000 personnes touchées. En fait, on estime, il y a une étude de Santé publique France qui estime le nombre de personnes touchées plus proche de 1,5 million, voire 2 millions.
Ah oui, je vois Jimmy, je vous vois écarquiller les yeux, c'est énorme.
Là, on est sur un facteur 100 ou 1000, là. Enfin, c'est...
Oui, mais vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être malades dans l'année, qui ont pris un repas légèrement dérangé.
Moi, j'ai mangé des huîtres, j'étais malade, j'en ai pas fait tout un truc, quoi. J'ai vomi et puis c'était réglé, donc c'était pas déclaré.
C'est ça aussi, une toxi-alimentaire.
Ça, c'est une toxi-infection alimentaire, mais pas collective. C'est-à-dire, vous êtes tout seul à être malade. En général, c'est pas déclaré. Même les professionnels de santé le déclarent pas.
Laurent Lallou, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes, bien sûr. On reste ensemble. Dans un instant, on va passer à la pratique avec vous, quand on fait ses courses, par exemple, que faut-il regarder sur l'emballage ? Ensuite, comment bien ranger tout ça dans le frigo, parce qu'il y a des zones plus ou moins froides dedans, dans lesquelles il faut ranger tel ou tel aliment. On va tout vous expliquer, mais d'abord un peu de musique sur Europe 1. On écoute le single 2020 de la troupe des Enfoirés, ça s'appelle « À côté de toi ». C'était À côté de toi, dernier single des Enfoirés. Une fois de plus, les plus grands artistes de la scène musicale française se sont donc réunis au profit des Restos du Cœur.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Laurent Lallou. Il est directeur du laboratoire Sécurité Sanitaire des Aliments à l'ANSES. Alors, Laurent Lallou, puisque c'est ce qu'on va chercher à éviter grâce à vous aujourd'hui, les principaux symptômes, finalement, des intoxications alimentaires, c'est quoi ? C'est digestif, j'imagine.
Alors, c'est essentiellement digestif, avec des symptômes assez basiques, qui sont les vomissements, la diarrhée, le mal de ventre. Mais ça peut aller beaucoup plus loin sur des personnes un peu fragiles.
C'est-à-dire ?
Personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées parce que traitement médical sur une maladie assez lourde. Ces personnes-là ne vont pas avoir l'immunité nécessaire pour pouvoir lutter contre les contaminants bactériens qui sont présents sur les aliments qu'ils vont consommer.
Et là, il y a les symptômes digestifs, mais du coup, ça dégénère. Il se passe quoi après, du coup, quand on a une grave intoxication alimentaire chez un sujet fragile comme ça ?
Alors, ça peut aller jusqu'à la mort.
Ah oui, tout simplement.
Ça peut aller jusqu'à la mort, en passant par la septicémie, par des syndromes hémolytiques et urémiques, en fonction des pathogènes qu'on peut retrouver dans les aliments.
Jimmy ?
Et justement, ces pathogènes, ce sont plutôt des bactéries, c'est ça ? Plutôt que des parasites ou des virus qu'on retrouve ?
Alors, ce sont essentiellement des bactéries, mais on retrouve l'ensemble des micro-organismes, parasites et virus. Il y a à peu près une lutte toujours entre bactéries et virus sur l'agent le plus impliqué dans les toxi-infections alimentaires collectives. On parle de virus entériques et de bactéries pathogènes.
C'est quoi on va dire le top 3 des bactéries qui nous contaminent ? La salmonelle, on la connaît bien, enfin le nom en tout cas.
Salmonelle qu'on connaît bien, campylobactère qui fait aussi partie des top 3 on va dire. Et puis on rajoute un virus, le norovirus en général, qui est un virus entérique qui est comptabilisé dans les toxi-infections alimentaires.
Qui donne des gastro quoi finalement.
Virus entérique, donc gastro-entérite classique. On va dire.
Jimmy ?
Et ces microbes, on les trouve où à la base ? Est-ce qu'on les fait se développer plus facilement lorsqu'on utilise mal un aliment ou lorsqu'on le conserve mal ?
Tout à fait. On peut avoir de la contamination naturelle de l'aliment, même titre que les animaux dont sont issus les aliments ou les végétaux dont sont issus les aliments sont contaminés par une source extérieure.
Donc ça peut être à la base sur l'aliment.
Ça peut être à la base sur l'aliment, puis ça peut être dans toutes les manipulations de l'aliment que l'on fait tout au long de la chaîne de fabrication, de distribution, voire de consommation.
Alors là, oui, pardon.
Et donc on peut avoir une contamination par l'homme qui a manipulé l'aliment.
Et donc justement dans cette chaîne de consommation, on va dire, la première finalement c'est l'étape où on fait les courses, on va dire, quand on achète, enfin pour nous en consommateur en tout cas, dans ces règles d'hygiène, donc au niveau des courses, quand on est au supermarché, il y a la date de péremption sur l'emballage, c'est le premier truc qu'on regarde, hein. Il y a d'autres choses à vérifier sur l'emballage ou ça c'est la chose la plus importante?
Non, bien regarder les dates, mais ça les dates on les regarde non seulement à l'achat mais aussi on les regarde tout au long de la vie du produit, c'est ce qui va vous guider dans est-ce qu'il faut que je consomme mon produit ou est-ce que je peux attendre.
DLC, DDM, c'est quoi la différence, tout ça, ça veut
Alors,
dire
DLC, c'est vraiment une date limite de consommation. C'est au-delà de cette date-là, il n'est pas recommandé de consommer le produit.
Même les yaourts, parce que souvent on dit qu'on peut peut-être dépasser, on dit souvent même 15 jours, ça pose pas de problème.
Nature, apparemment.
Oui, les yaourts, il y a une tolérance en quelque sorte, parce que c'est un produit qui est bien manufacturé, on va dire, où il y a peu d'intrants extérieurs, c'est bien emballé, c'est hermétique. Ça tient suffisamment longtemps, on va dire, et pour ça, il y a même une différence, par exemple, entre une date de limite de consommation d'un yaourt menthe en métropole et dans les...
Aux Antilles, par exemple,
Outre-mer,
j'ai vu.
Il y a une différence pour tenir compte du voyage du yaourt vers les territoires outre-mer. Mais en fait, c'est le même produit, donc il y a une tolérance, et honnêtement, sur des yaourts, vous pouvez largement laisser traîner encore 7 jours derrière.
Mais sur quoi on ne fait pas traîner du tout, par
Alors,
contre
sur les denrées périssables, par contre,
c'est-à-dire
là, des denrées d'origine animale, viande, poisson...
Là, on respecte.
Là, on respecte, parce que la croissance bactérienne peut être très rapide et altération du produit très rapide.
Jimmy ?
Une erreur que je peux commettre souvent, on fait les courses en famille, et donc je laisse parfois traîner les courses un peu longtemps dans la voiture.
Le temps de ramener les enfants à la maison.
Exactement,
tout ça,
donc ça, c'est pas une très bonne chose. Ça, on oublie ce temps entre le supermarché et le frigo.
Si on a déjà 30 minutes de trajet, on va dire, entre le supermarché et la maison, et qu'on laisse encore 30 minutes dans la voiture, ça craint ou pas ?
C'est sûr, il faut essayer de réduire au maximum le temps entre le moment où vous allez prélever l'aliment, justement dans les gondoles froides, parce que c'est souvent des aliments périssables qui sont stockés au froid, et le moment où vous allez le mettre dans le frigo. Essayez de ralentir de réduire au maximum ce temps d'exposition aux températures ambiantes.
C'est-à-dire combien de temps maximum on laisse dehors sans être... Enfin, sans ce qu'on dit, on dit briser la chaîne du froid, c'est ça ?
Voilà, briser la chaîne du froid. Alors bien sûr, en fonction de là où on habite, là où on a la disponibilité des magasins,
on fait comme on peut,
mais on essaye de réduire au maximum ce temps-là. Surtout, ne pas laisser les aliments dans le coffre de la voiture en plein été.
Et aller regarder Netflix, Jimmy.
Et voilà.
Aller
faire quelque chose en attendant. C'est-à-dire, on fait les courses, on va directement chez soi pour les mettre dans des conditions satisfaisantes de stockage.
Et quand on rentre, pareil, donc le frais, on le met tout de suite au frigo, et la porte du frigo, faut faire attention et pas la laisser ouverte trop longtemps, je crois.
Non, mais bon, faut quand même pouvoir ranger.
Oui, on jette pas tout d'un coup dans le frigo.
Pas tout non plus. Mais effectivement, plus on laisse le réfrigérateur ouvert, plus on va augmenter la température à l'intérieur.
Jimmy ?
Et justement, c'est quoi la bonne température dans un frigo ?
Alors, la bonne température...
37 degrés, Jimmy.
Voilà, très bien, comme le thermomètre.
Pour les aliments périssables, c'est entre 0 et 4 degrés. C'est ça la cible, c'est la température, on va dire, la plus froide du réfrigérateur.
Entre 0 et 4. Alors moi, mon réfrigérateur, il n'a absolument aucun thermomètre. Enfin, j'en avais un avant où c'était affiché, puis le nouveau, il n'y a rien.
Au maximum, il y a un petit OK, c'est-à-dire un petit voyant qui nous explique
comment
qu'on peut le voir.
Comment on fait pour savoir quelle température? Il faut vérifier, c'est important.
Alors,
ça
vous pouvez vérifier. Alors, depuis 2002, normalement, il y a, sur tous les réfrigérateurs commercialisés, il y a un petit logotype qui indique la zone la plus froide. Parce que parfois elle est en haut, parfois elle est en bas. Ça dépend vraiment de la technologie du réfrigérateur. Donc c'est un petit logo, c'est une sorte de flèche avec un thermomètre.
D'accord.
Parfois vous avez des réfrigérateurs un peu plus sophistiqués qui vous donnent effectivement avec une sorte de puce qui vous dit OK, pas OK, en fonction, avec une couleur.
Et s'il n'y a rien de tout ça, parce que moi je dois avoir un vieux réfrigérateur.
Et s'il n'y a rien de tout ça, vous prenez un thermomètre.
N'importe lequel.
Classique, de médecin, peu importe. Ouais. Et puis vous le mettez un peu dans de l'eau pour éviter, pour avoir de l'inertie un petit peu
petit verre d'eau.
Un petit verre d'eau.
Thermomètre,
et puis vous vérifiez que dans la partie la plus froide, vous êtes bien entre 0 et 4 degrés. Et là, vous ajustez avec votre thermostat pour régler la bonne température.
Merci beaucoup, Laurent Lallou. On va continuer cette discussion juste après. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on met la tête dans le frigo. On va vous détailler zone par zone où faut-il ranger les yaourts, la viande, le cuit, le cru, car il y a des règles à respecter pour bien conserver tout ça. Et puis, on passera aussi en cuisine. On commet finalement pas mal d'erreurs d'hygiène en préparant les repas, enfin surtout Jimmy, moi non, qui font parfois courir des risques de contamination à toute la famille. On fait le point très vite. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Laurent Laloux. Il est directeur du laboratoire sécurité sanitaire des aliments à l'ANSES. Laurent Laloux, on va décortiquer les zones du frigo. Maintenant, j'ai dit qu'on mettrait la tête dans le frigo avec vous. Ben, on y va. D'abord, la température. Donc, vous avez dit, dans la zone la plus froide, il faut qu'elle soit entre 0 et 4.
0
on
et
est
4.
D'accord. Par contre, ça, c'est une moyenne dans la zone la plus froide. Mais c'est pas la température, elle n'est pas égale partout dans le frigo.
Non, elle est vraiment 0 et 4 sur la partie identifiée comme étant la plus froide dans le frigo, et toutes les zones hors cette zone-là ont des températures un petit peu plus élevées. Il y a un gradient de température, et plus vous vous éloignez de cette zone-là, plus vous avez des températures qui peuvent monter jusqu'à 8 degrés à l'intérieur du frigo. Sachant que la porte est un peu à part, elle est toujours entre 10 et 12 degrés, c'est un peu plus élevé dans les températures.
La zone la plus froide, finalement, du frigo, alors vous avez dit qu'elle peut varier en fonction du type de réfrigérateur, mais elle est où en général?
En général, elle est en bas, parce que le froid vient en bas pour pouvoir monter.
D'accord. Et c'est quoi qu'on doit mettre là-dedans, du coup? Dans ce qui est le plus froid, qu'est-ce qu'on range quand on arrive du supermarché dans le plus froid?
Viande, poisson cru.
Mais c'est pas le bac à légumes en général, le bas?
Le bas, c'est le bac à légumes, mais...
Juste au-dessus
Okay. Le froid n'arrive pas du bac à légumes, mais juste au-dessus.
Mais donc, il fait froid dans le bac à légumes, quand même.
Non, le bac à légumes, c'est plus chaud. C'est entre 4 et 8 degrés.
D'accord, mais juste au-dessus du bac à légumes, c'est là qu'on met la viande, le poisson,
et
tout ce qui est plus fragile.
C'est là, maintenant, vous allez dans les réfrigérateurs modernes, vous avez carrément des bacs à viande. C'est
bien. Jimmy, vous avez sûrement ça, vous aimez les trucs modernes.
Exactement, oui, je pense que, Mélanie, il faut que vous changez de frigo, à mon avis, parce que là, vous découvrez des choses, mais vous avez dit que, du coup, 10-12 degrés dans la porte du frigo, donc qu'est-ce qu'on peut y mettre à cet endroit-là?
Vous mettez les boissons, les condiments, les œufs éventuellement.
Les œufs, ça supporte
beurre.
Un peu les températures un peu plus élevées. D'ailleurs, il y a des gens qui les mettent même pas au frigo, les œufs.
Parce qu'au supermarché, les œufs sont pas forcément dans un rayon très frais. Donc,
les œufs sont commercialisés à température ambiante.
Donc on peut éventuellement les stocker en dehors, les œufs?
Alors on peut les stocker à température ambiante. En général, sur l'emballage des œufs, vous avez marqué à conserver au réfrigérateur quand même. Il se précise qu'il faut conserver au réfrigérateur. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est les grandes différences de température. C'est-à-dire, si vous les mettez au frigo et vous les sortez dehors, il y a un choc thermique. Et ce choc thermique, il va abîmer la coquille de l'œuf.
D'accord.
À l'intérieur de l'œuf, c'est stérile. Vous n'avez pas de pathogène à l'intérieur de l'œuf. Mais si vous fragilisez la coquille, vous allez permettre éventuellement à certaines bactéries de pénétrer l'œuf.
Donc le bac à légumes, ok. Le bas, donc juste au-dessus du bac à légumes, le plus fragile, les viandes, les poissons. Au-dessus, il fait encore un peu plus chaud. Donc
un
là, au-dessus,
chaud.
On peut mettre tout le reste. Enfin, les yaourts.
Viande séchée ou salée, type charcuterie, les poissons salés, les légumes cuits.
Tout ça, c'est les restes de ragoût, de poulet, de tout ce qu'on veut. Ah, poulet, peut-être remarqué, il faut garder plus frais la viande. Ouais.
Poulet cuit, après poulet cru, vous le mettez dans le frigo.
D'accord. Jimmy?
Ma femme m'oblige toujours à recouvrir les restes ou les sauces qui traînent dans le frigo systématiquement. Elle a raison, je crois qu'elle a
toujours raison. Elle a toujours raison, votre femme.
Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ça?
Non, elle a raison.
Gardez-la.
Il faut éviter, en quelque sorte, ce qu'on appelle la contamination croisée entre aliments. Donc, il faut protéger les aliments du contact d'autres aliments. Et notamment, protéger les aliments qui vont être consommés crus tels que crus, et les aliments éventuellement qui sont cuits. Parce que vous avez une contamination de l'aliment. Par exemple, si vous mettez un poulet dans votre frigo, vous mettez des tomates dessus, vous allez voir la contamination qui va passer du poulet à la tomate. Le poulet, c'est pas très grave parce que vous allez le cuire. Enfin, on mange rarement du poulet.
Oui, non, très rarement, je crois pas.
Mais la tomate, par contre, vous allez éventuellement la manger en salade et du coup, vous allez manger la contamination du poulet avec votre tomate.
Mais les légumes, vous parliez des tomates, enfin les fruits pour le coup, mais ils arrivent parfois, si on les achète, je sais pas, bio, ils sont pleins de terre. Est-ce qu'il faut vraiment les laver avant de les mettre au frigo, par exemple, mais dans le bac à légumes, ça c'est important parce que la terre, elle peut être source de choses pas très propres.
Les
non
pommes de terre, c'est pas recommandé de les mettre dans le réfrigérateur, vous les mettez à température ambiante.
Parfois, moi, j'ai des carottes qui sont pleines de terre. Donc,
c'est préférable de les laver avant de les mettre dans votre réfrigérateur. Soit vous les laissez à température ambiante, soit vous les mettez au réfrigérateur. Mais évitez d'apporter de la contamination. Et la terre apporte énormément de contamination bactérienne. Donc, vous allez contaminer votre frigo avec la terre des légumes.
Jimmy?
Les produits les plus récents, on peut les mettre n'importe où dans le frigo ou, évidemment, le poisson dans le bac à poisson, mais pour tout le reste, on peut mettre ça au milieu, au fond, devant, on fait comme on veut, ou il y a une règle qu'on doit respecter?
C'est un peu comme dans les grandes surfaces. En général, vous trouvez toujours les produits avec une durée de limite de consommation le plus élevée, le plus loin possible.
Moi, je vais chercher au fond, toujours, de toute façon, je vais au fond.
C'est un peu la même chose dans votre réfrigérateur. Mettez plutôt les denrées qu'il faut consommer le plus tôt possible devant et ceux que vous pouvez conserver un peu plus longtemps derrière. Au moins, vous savez, avec vos règles d'achat, que vous pouvez consommer déjà ces produits de manière préférentielle.
Alors, un frigo, normalement, ça doit se dégivrer. J'avoue, moi, je ne le fais jamais. Mais bon, comment on fait ça? Comment on procède pour, d'ailleurs, quand on a des aliments dedans, on vide tout. Enfin, comment on fait ça chez soi?
Bah, pour nettoyer le réfrigérateur, vous êtes bien obligé de le vider et d'être assez rapide, on va dire, dans votre nettoyage pour pouvoir remettre assez rapidement les...
Jimmy est un grand expert. Il m'a dit que c'était toutes les semaines chez lui.
Oui,
donc,
vous, c'est une fois par an, vous avez dit.
Vous invitez Jimmy Mohamed, il vous nettoie ça rapidement.
Voilà. Et vous, c'est une fois par an, Mélanie. Mais là, on parle. Le dégivrage.
C'est pas tout à fait pareil.
Il y a dégivrage. Les nouveaux frigos, en fait, il n'y a plus besoin de dégivrage. En fait, ils sont tout seuls, c'est automatique. Mais pour ceux qui
font
ça, on doit quand même le faire. On doit quand même dégivrer. C'est ça, quelque chose?
Alors, à la fois, c'est pour la durabilité, c'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie. Plus on a de glace, plus le froid, le réfrigérateur souffle pour faire le froid nécessaire pour conserver les aliments. Mmh. Et puis, plus vous avez de glace sur la paroi, plus vous avez en quelque sorte de niches possibles pour éventuellement une contamination bactérienne.
Oui,
et puis, si vous avez du givre sur les parois, comment allez-vous nettoyer vos parois?
Alors justement, comment on nettoie? Parce que bon, moi je me dirais, tiens, on prend la Javel, on nettoie, on vide tout, on met de la Javel, mais je crois que la Javel, c'est absolument pas recommandé dans le frigo.
Alors, ça dépend de la concentration en Javel que vous allez utiliser, mais c'est vrai, parfois, il peut y avoir une petite interaction entre les matières plastiques et le chlore de la Javel, qui peut altérer un peu les plastiques. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir...
poreux, en fait, hein,
oui,
c'est ça.
Avoir des rayures, avoir des accidents un peu sur la paroi qui est lisse, parce qu'après, c'est une niche à bactéries. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal à décrocher les bactéries de ces petites rayures ou de ces petits trous dans la paroi du réfrigérateur.
Vous nettoyez avec quoi, vous?
Ma femme fait ça avec de l'eau et du vinaigre. Je ne sais pas si c'est une bonne solution. Des fois, de l'eau et du savon, tout simplement.
De l'eau et du savon ou du liquide vaisselle, c'est parfait pour nettoyer un réfrigérateur. Ça suffit amplement. Après, on peut aussi utiliser de l'eau vinaigrée ou...
C'est bien, c'est naturel, il n'y a pas de produit.
Et vous, la fréquence idéale, c'est tous les...
Alors, nous, on dit au moins une fois par mois.
Oui, c'est souvent. Là, vous, c'est une fois par semaine, vous y allez très fort.
C'est ma femme qui le fait, je le reconnais. Elle fait très attention, mais voilà, je devrais...
Donc, une fois par mois, dans l'idéal,
une fois par mois, et puis si jamais il y a un produit qui coule, on n'attend pas un mois, on l'essuie tout de suite, et puis on essaie de maintenir un réfrigérateur propre quand même.
Si on a une panne de courant à la maison avec le frigo, pouf, il est éteint. On jette tout ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rester encore en quelques heures? Enfin, comment ça
Alors
se passe?
Après, il faut comptabiliser le temps.
Bon, mais admettons une panne de courant qui dure une heure, je ne sais pas, donc tout le quartier est bouclé.
Une heure, vous laissez, surtout, vous n'ouvrez pas le réfrigérateur, ce qui est quand même une certaine inertie des parois, donc derrière le froid va être conservé
donc
à l'intérieur.
Ça reste un peu froid tant qu'on n'ouvre pas la porte.
Vous l'ouvrez pas, vous n'ouvrez surtout pas votre réfrigérateur, vous le laissez comme ça. Si ça dure une heure, il n'y a pas de souci. Si vous avez une durée un peu plus longue, vous ferez en sorte de manger les denrées périssables tout de suite et de les cuire.
C'est un énorme dîner.
Et puis, à défaut, vaut mieux jeter que de consommer.
Allez, on passe en cuisine à présent. La préparation des repas, il y a des règles aussi à respecter pour éviter les contaminations. Qu'est-ce qu'il faut très bien cuire en général? Les viandes, les poissons, ça doit être très cuit, hein, pour justement éviter, s'il y avait des bactéries dessus, d'être contaminé, c'est ça?
Depuis tout temps, la cuisson a permis à l'homme d'éliminer les bactéries de son alimentation, ou du moins les micro-organismes pathogènes de son alimentation. C'est toujours le cas, c'est-à-dire la cuisson est vraiment le meilleur moyen pour éliminer la contamination en micro-organismes des aliments.
Il y a des viandes, particulièrement le porc, je crois qu'il faut bien cuire, non? Parce qu'il y a plus de, je sais pas, il y a plus de bactéries ou pas?
Alors, de manière générale, les denrées d'origine animale, donc poisson,
toute viande, tout poisson,
viande, sont les aliments qui sont plus susceptibles de porter une contamination bactérienne, parce que la température, on va dire, des animaux, des mammifères en particulier, est idéale pour la croissance bactérienne. Donc, les bactéries, bien évidemment, vont plutôt vers ce type d'aliments et d'animaux que de végétaux. Quoi.
Jimmy ?
Et avec la cuisson, on est sûr de détruire tous les agents pathogènes. On peut être tranquille si on la cuit correctement, même surcuit une viande, on peut la manger même si elle a pu être contaminée.
Alors, on va détruire une grande partie des agents pathogènes bactériens, viraux, parasites. Par contre, vous pouvez avoir des bactéries qui sont productrices de toxines. Comme les Staphylococcus aureus, par exemple.
Et Staphylococcus doré, donc.
Staphylococcus doré, vous avez une production de toxines dans l'aliment. Donc, vous allez faire une cuisson, vous allez détruire la bactérie, mais la toxine
est toujours
rester.
Là. D'accord.
La toxine est toujours là. Donc, si vous avez un aliment qui a été contaminé par Staphylococcus
doré... Ça, on est capable de le savoir au quotidien. Enfin, les consommateurs, on ne sait pas. Il n'y a pas un petit clignotant qui dit attention, Staphylococcus doré. Hein.
Non.
Surtout qu'on peut en avoir sur soi du Staphylococcus doré. On est d'accord. Dans le nez, on peut avoir des.
Vous pouvez être porteur sain. Et quand vous êtes cuisinier et porteur sain, là, il y a quand même une.
Mais alors, on fait quoi pour éviter les contaminations avec ce genre de bactéries comme le Staphylococcus doré qu'on peut porter sans être malade?
Quand on est porteur sain, on évite de faire la cuisine pour les autres et si on veut en faire son métier, malheureusement ça risque d'être compromis. Ça arrive de temps en temps dans quelques restaurants où on détecte, suite à une toxi-infection alimentaire collective, un cuisinier porteur sain. il est malheureusement...
Il doit changer de métier, le pauvre.
Il doit changer de métier, malheureusement. Après, vous pouvez avoir des gens qui ont ponctuellement, avec des panaries ou des plaies infectées, peuvent être source de contamination de différentes bactéries.
Au niveau des mains, on a des infections, on ne cuisine pas, en fait.
On met des gants à minima, mais on évite de cuisiner. De même que si on est malade, on évite de cuisiner pour les autres.
C'est du bon sens. Jimmy, bon sens.
Certains préfèrent laver les œufs, parce qu'on fait tout, on a dit qu'il faut tout laver. Apparemment, ce serait pas une très bonne idée.
Non, laver les œufs, c'est pas une bonne idée parce que l'œuf est au-delà de la coquille, qui peut être contaminée effectivement par l'extérieur, l'intérieur est stérile. Mais poreux malgré tout, parce qu'il faut que l'œuf puisse respirer. Donc à partir du moment où vous allez laver, vous allez un peu détruire cette étanchéité de l'œuf et vous allez permettre à une contamination éventuellement de surface de l'œuf de rentrer à l'intérieur de l'œuf.
Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans les choses pratiques hein, maintenant. Les tartares, par exemple, qu'on ferait à la maison, il y a des précautions particulières si on veut manger un bon tartare de bœuf en cuisinant. Qu'est-ce qu'on prend comme précaution particulière? Parce que là, ça ne sera pas cuit, donc s'il y a de bactéries...
Oui, vous êtes dans les risques maximum par rapport à une contamination qui vient de la viande.
Mais si on adore le tartare, on fait comment?
et prenez un tartare frais, on va dire. Assurez-vous de la bonne qualité de la viande que vous allez... Évitez de donner un tartare à des personnes sensibles, comme on a précisé précédemment.
Les enfants, pas à partir de quel âge?
Les enfants, c'est pas recommandé de leur faire goûter du tartare.
Avant 3 ans, quoi, quelque chose comme ça, on a un âge, 5 ans.
5 ans, on arrive à avoir une immunité qui commence à être un petit peu développée. Mais on évite, même le steak haché, il est bien cuit, il est pas rosé pour les enfants.
Avant 5 ans. Jimmy?
Vous nous avez expliqué tout à l'heure que des aliments peuvent en contaminer un autre, notamment dans le frigo, le poulet qui contamine les tomates. Mais est-ce qu'on peut être contaminé par autre chose, un couteau de cuisine qui serait mal lavé, ou une viande qu'on va mélanger, cuite, pas cuite, est-ce que ça peut poser problème?
La contamination croisée, vous l'avez à tous les niveaux de contact. Donc effectivement, dans votre frigo mal rangé ou les aliments sous contact, mais aussi dans votre pratique de cuisine. Si vous utilisez une planche à découper pour toujours découper votre poulet, je prends le poulet, mais c'est un exemple, hein,
on n'a rien contre le poulet, on aime le poulet.
Mais vous découpez votre poulet sur une planche à découper, très bien, vous allez le faire cuire, il n'y a pas de souci, mais derrière, vous n'allez ni laver le couteau, ni laver la planche, ni changer le couteau, ni changer la planche, et vous allez découper toujours votre tomate ou peu importe, vos crudités, et vous allez apporter la contamination du poulet via la planche par aux légumes ou aux fruits que vous allez consommer derrière.
Donc on lave tout en fait, hein, c'est ça, on réutilise. Alors, pas
on
le couteau.
On utilise des planches différentes, une réservée pour les aliments qu'on va cuire, une réservée pour les aliments qu'on va consommer crus.
Mais sinon, si on n'en a pas deux, on lave.
On change de couteau ou on lave entre les deux.
Petite question d'hygiène en cuisine aussi, on a des torchons. Les torchons, il faut les changer tous les combien plutôt pour être tout à fait certain de pas... Parce qu'on s'essuie les mains avec, au bout d'un moment,
alors,
c'est
le
sale.
Alors le torchon, donc, comme les éponges qui servent éventuellement à nettoyer soit la vaisselle, soit le plan de travail, vont être porteurs assez rapidement de bactéries puisque vous essuyez les mains, vous essuyez différentes choses avec... Et forcément, vous allez faire une contamination croisée entre la partie contaminée et le torchon ou l'éponge. Et donc, il faut, dès qu'ils sont souillés, il faut les changer régulièrement. Mais également les éponges, il faut de temps en temps les chauffer ou les nettoyer, les javeliser pour éliminer les bactéries à l'intérieur des éponges.
Jimmy, une dernière petite question.
Les biberons, les préparations pour les enfants, le repas, il y a des petites précautions simples, on nettoie les biberons systématiquement?
On nettoie les biberons systématiquement, on veille à ne pas fabriquer un biberon et le laisser traîner à température ambiante.
Pas plus d'une heure, non, je crois.
Pas plus d'une heure, parce que voilà, on les prépare vraiment à l'usage pour éviter de... Sinon, on les conserve au frais si on n'a pas d'autre choix.
Et un dernier mot, en cuisine, on a fait attention aux animaux domestiques aussi, hein, c'est ça? Normalement, ils n'ont pas trop à être là, en tout cas au niveau des zones où on prépare le repas, parce qu'ils peuvent nous filer des choses pas très bonnes pour la santé. Hein.
Les animaux, et
on les aime, on les adore,
entre autres,
mais...
y compris les nouveaux animaux de compagnie. Vous avez des contaminations à salmonella par des serpents ou des tortues.
Ah oui?
Oui.
On imagine qu'ils sont tout propres, les serpents.
Ils sont porteurs de bactéries. Vous les manipulez. Vous lavez les mains avant d'aller cuisiner. Mais les animaux de compagnie peuvent aussi traîner dans les cuisines.
Eh oui.
Évitez qu'ils traînent sur le plan de travail au moins. Et puis, s'ils sont sur le sol, vous n'avez pas le choix, tant pis. Mais lavez votre sol régulièrement.
Merci beaucoup Laurent Lalou d'être venu sur notre plateau. Nous rappeler donc ces règles d'hygiène, de conservation des aliments. Ça paraît basique parfois, mais il y a beaucoup de contamination alimentaire chaque année dans nos cuisines. Et on peut vraiment les éviter. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. On va parler aujourd'hui d'une infection, une autre infection, celle du tétanos. Comment la contracte-t-on? Y a-t-il des personnes plus à risque? Et surtout, comment ça se soigne? On fera le point. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du tétanos. Que savez-vous de cette infection? Comment peut-on être contaminé justement? Savez-vous quelles sont les personnes les plus à risque? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
Tétanos, c'est une maladie.
Ah, le tétanos, c'est que ce que tu chopes quand tu te coupes avec du métal.
Tétanos, donc ça peut s'attraper par exemple en se coupant avec du fer ou avec du métal, ou ben, par exemple un clou.
Je crois que ça brûle, ça s'infecte, hein, et après il faut amputer le doigt.
Il doit se passer quelque chose peut-être avec le sang, dans le sang.
La fièvre, avoir mal sur la plaie par exemple, une infection en tout cas dans le corps.
Ça doit être dans les premiers vaccins, après il y a des rappels à faire.
Non, c'est pas obligatoire. Mais c'est très conseillé par les médecins, il me semble. Et en tout cas, si on va dans un autre pays, je crois que c'est enfin, il y a certains pays où c'est conseillé de le faire.
Jimmy, on fait le point donc sur le tétanos à présent. Alors, c'est quoi cette infection un peu dans le détail?
Alors, c'est une maladie infectieuse qui est causée par les spores de la bactérie Clostridium tetani.
On parle beaucoup de bactéries aujourd'hui.
Exactement. Le problème, c'est que les spores de ces bactéries sont présentes un peu partout dans l'environnement, en particulier au niveau des sols, dans l'intestin, sur la surface de la peau, les outils rouillés comme les clous, les aiguilles, les barbelés. Et ces spores sont résistants notamment à la chaleur et la plupart des antiseptiques, raison pour laquelle ils peuvent survivre pendant des années. Le tétanos, ça reste malgré tout présent en France. Entre 2008 et 2011, on a eu 36 cas, qui sont 36 cas de trop, avec 11 décès parmi ces 36 cas.
Et donc on attrape ça, vous l'avez dit, en se coupant. D'ailleurs, dans le micro-trottoir, les gens avaient ça en tête, hein, le clou rouillé, ou en jardinant éventuellement. Mais comment on reconnaît qu'on a attrapé cette infection? Il y a des symptômes?
Alors, vous avez raison, c'est une blessure, mais n'importe laquelle, pas forcément celle avec un clou rouillé, on a souvent cette image-là, mais se blesser même en faisant du jardinage avec une rose peut entraîner le tétanos. La maladie n'est pas contagieuse, elle ne se transmet pas d'homme à homme. La période d'incubation, elle varie de 3 à 21 jours. Et dans l'immense majorité des cas, les symptômes apparaissent dans les 14 jours. Alors, le tétanos, donc retenez la tétanie. Donc, vous avez des crampes, des spasmes musculaires, des douleurs au niveau de la mâchoire. Les muscles sont douloureux. Vous avez du mal à avaler, des maux de tête. Et puis, secondairement, une phase de température, de convulsion. Vous voyez, on peut tout simplement décéder du tétanos.
Bon, très rapidement, ça se soigne, oui.
C'est une urgence médicale. Souvent, les patients sont hospitalisés en réanimation. Le traitement fait appel à ce qu'on appelle les immunoglobulines antitétaniques. On désinfecte les plaies qui sont souvent
hospitalisées. Exactement. Hein, de toute façon.
Et les plaies sont souillées et doivent être traitées. On met souvent des traitements antibiotiques et un traitement mieux relaxant contre les spasmes. En revanche, il faut ne pas oublier de se faire vacciner. C'est le seul moyen
même
de se prévenir.
Même quand on l'a attrapé, on doit se faire encore
exactement,
vacciner derrière.
Car l'immunité naturelle n'est pas aussi bonne que celle conférée par l'infection, que par la vaccination.
D'accord, et puis il faut rappeler, on vient de le dire un petit peu, le vaccin c'est très important parce qu'en fait le tétanos, on peut tout simplement l'éviter. Qui c'est qui doit se faire vacciner justement?
Eh ben, c'est tout le monde, c'est dans le cadre de la vaccination obligatoire
donc
désormais.
Les bébés aujourd'hui nés après 2018 seront vaccinés, c'est obligatoire.
Ce qui veut donc dire que n'importe qui peut
l'attraper. Mais vous, moi, on doit le faire aussi.
Et l'immunité, comme on l'a dit, elle n'est pas durable dans le temps. Elle est de 20 ans jusqu'à 65 ans, donc tous les 20 ans on se fait vacciner quand on est adulte. Et puis à partir de 65 ans, l'immunité est moins bonne et donc on se vaccine tous les 10 ans contre le tétanos. Il n'y a pas d'âge pour attraper le tétanos et n'oubliez pas, n'importe quelle blessure peut l'entraîner.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Dans un instant, on se retrouve pour la chronique sexo, aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. Il sera question de ces habitudes sexuelles qui rythment certains. Certains sont plus du matin, d'autres plus du soir. Alors que faire quand on n'est pas tout à fait au diapason? Elle nous dira tout, mais d'abord un peu de musique. Je vous propose d'écouter la chanteuse belge Célassou avec son morceau Ragamuffin. C'était la chanteuse R&B Soul Célassou avec son titre Ragamuffin, titre sorti en 2010.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Anaëlle. Je vous lis sa question. Avec mon copain, nous ne sommes jamais d'accord sur les moments pour faire l'amour. Lui préfère le matin alors que moi, je préfère le soir. Comment sortir de cette situation? Catherine, on entend régulièrement des gens dire « moi je suis plutôt du matin, moi je suis plutôt du soir ». Est-ce que c'est vrai? Vraiment des gens du matin, du soir, ou c'est juste parce qu'on n'est pas curieux et on teste pas autre chose finalement?
Non, je crois que d'abord, pour faire l'amour, il faut avoir une disponibilité d'esprit. Il faut s'être débarrassé de nos préoccupations du quotidien, que ce soit professionnel, que ce soit des peurs que nous avons d'aborder la vie, d'aborder la journée, etc. Donc, effectivement, certains sont plus du matin, de façon générale, pas que pour la sexualité, c'est-à-dire en termes de dopamine, en termes d'énergie, ils sont prêts à l'attaque, alors que d'autres ont du mal à mettre un pied à terre, mais pour pouvoir aller aborder
déjà
la vie,
émerger,
etc.
Déjà, pour émerger, alors pour avoir des relations sexuelles, pareil, quoi.
Voilà. Ceci étant, on peut être justement un peu dans le flou artistique et trouver ça délicieux parce que justement, il n'y a pas une confrontation avec la morale que nous avons qui peut empêcher ou inhiber un peu notre sexualité. Donc, le matin est une chose, le soir peut être un moment de détente, un moment d'abandon, un moment de lâcher prise où on a toute la journée tenue fermement, musculairement, intellectuellement, et là tout d'un coup on lâche, ou au contraire, c'est un moment où on a le sentiment d'avoir beaucoup subi et on ne veut pas percevoir la sexualité comme le risque de subir plus encore. Du coup, une difficulté à s'y adonner à ce moment-là.
Jimmy ?
Alors, c'est pas sexiste de dire ça, mais est-ce que la charge mentale qui incombe aux femmes peut faire que le matin, elles seraient moins disposées à avoir des rapports, étant donné qu'elles se projettent sur la journée à venir, contrairement aux hommes qui, dès le matin, eux, la charge mentale est proche du néant.
Sont prêts. Au moins, il est réaliste, c'est ça que j'aime bien avec vous, Jimmy.
Vous êtes dur avec vous, Jimmy.
Ils ont moins de pression. Est-ce que du coup, les femmes seraient peut-être un peu plus du matin, du soir, une fois que tout a été géré, ou absolument pas, tout ça, c'est un mythe?
C'est très difficile. En fait, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que les femmes sont déjà, dès qu'elles entendent un bruit, un souffle, elles sont déjà dans leurs préoccupations de maman, surtout quand elles ont des jeunes enfants. Elles sont déjà dans toute leur organisation et à anticiper l'organisation de leur journée. Quand, en effet, les hommes prennent une tâche après l'autre, ce qui leur permet d'ailleurs de les prendre plus sereinement quand les femmes sont déjà beaucoup plus avec, certes, une charge mentale, mais aussi une anxiété plus forte chez elles que ça n'est chez les hommes. Ceci étant, le soir, elles sont souvent dans la plainte qu'elles ont porté tout ça, et donc pas de disponibilité pour autant. Donc, c'est pas nécessairement lié à un sexe, d'être disponible pour l'un de l'autre.
Il y a
des
femmes du soir, des hommes du matin, des hommes du soir.
Après, la question qui se pose, et je trouve intéressante dans cette question, c'est la capacité à être au diapason. Parce que, effectivement, nous n'avons pas tous le même rythme, mais la question qui se pose indépendamment de nos rythmes différents, de nos couleurs différentes, ce qui est éminemment légitime, et faut-il qu'il y en ait un qui cède au désir de l'autre ? La réponse est non. Pourtant, c'est quand même un accord qu'il faut arriver à trouver. Et est-ce que finalement, être pile poil de l'opposé du temps de l'autre, est-ce que ce n'est pas une façon de se louper ? Et ça pose la question de la qualité de la relation, ça pose la question des enjeux de la relation ou des non-dits de la relation qui se rejouent au travers de ce timing qui est dissonant.
Et d'ailleurs, on n'est pas forcément ou du matin ou du soir, il y a le reste de la journée. Enfin, je veux dire,
absolument.
On n'est pas obligé d'être de l'autre. Non, je t'avais pas. Ne regardez pas comme ça avec cet air coquin, Jimmy. J'ai rien dit sur ma vie. Je disais juste qu'il n'y a pas obligé d'être. On peut être de rien du tout, enfin, de quand ça vient, quoi. Je sais,
de rien du tout et de tout le temps.
Oui,
voilà, absolument.
Temps,
c'est
voilà.
Ça que vous vouliez dire, toute rougissante que vous étiez.
Voilà. Expliqué, mais vous avez compris le fond de ma question. Alors,
voilà, c'est ça. Bien sûr qu'on peut être. Il n'y a pas d'heure pour faire l'amour. On peut aussi faire l'amour en plein milieu de la nuit. On peut être réveillé et trouver ça délicieux, comme on peut trouver ça insupportable. Comme on peut adorer être sollicité ou sollicité en plein milieu de la journée, comme on peut trouver ça insupportable. Encore une fois, c'est aussi la place que nous donnons à la sexualité, et indépendamment de la sexualité, parce que ne mettons pas tout sur le compte de la sexualité avec la possibilité pour certains ou l'impossibilité pour d'autres, il y a quand même aussi notre aptitude à avoir de l'énergie. Et encore une fois, au-delà de l'énergie sexuelle avec des hormones sexuelles, il y a l'énergie de tous les jours, à savoir la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui sont des énergies absolument indispensables pour avoir un regard sur soi, sur ses possibilités et sur ses qualités ou capacités.
Jimmy ?
L'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'il faut un petit peu se forcer lorsqu'on n'est pas tout à fait du même rythme en disant « je vais faire un effort » et puis ça va bien se passer.
Ça, ça vous plaît pas quand on fait un effort, Catherine, je sais.
Si, non, je suis pour l'effort, je suis sportive, je pense que faire des efforts, c'est découvrir aussi ses aptitudes, ça c'est merveilleux. Tant qu'on imagine qu'on ne fera les choses que quand on sera apte à les faire, on ne les fait pas. Donc il est absolument indispensable de mettre le pied à l'étrier, de se confronter à la difficulté dans la vie pour tous les sujets, bien évidemment. Mais l'effort n'est pas en direction de l'autre, c'est pour soi. Et ça, c'est important de se dire que oui, commencer à mettre les choses en route, c'est se donner la possibilité de les aboutir, ou pas.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, nous parlerons de la colique néphrétique. Nous verrons quelles sont les causes de ce mal et surtout comment en venir à bout, comment la prévenir. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. L'équipée sauvage arrive au grand complet avec un invité qui est partout en ce moment sur M6. Il présente Top Chef et il présente aussi Pékin Express, l'émission d'aventure culte qui revient ce soir sur M6. Au programme, quelques indiscrétions sur cette nouvelle saison et peut-être d'autres indiscrétions encore plus gratinées sur les saisons d'avant, vu qu'Eva Rock, notre spécialiste média, a suivi Stéphane dans ses aventures sur deux saisons de Pékin Express.
Merci beaucoup Mathieu. Toute l'équipe de Sans Rendez-vous vous souhaite une excellente émission et vous, restez sur Europe 1.